Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 11e édition des Silidor de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 27 avril au Théâtre Fairmount, dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silidor d'argent ou de bronze. Prenez part au Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, silidor.com.
Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin. Cherche un vin surprenant, jeune, avec une finale émergente.
Oh, je travaille pas ici, madame, mais ce que vous cherchez, c'est le festival Vue sur la Relève.
Ah, oh, je le connais pas, celui-là.
C'est un festival qui va avoir lieu du 9 au 20 mai à Montréal. Il y a du théâtre, comme la pièce Petit crime contre l'humanité, de la danse, de la musique.
Wow!
Il y a aussi des parrains de soirée, Karim Ouellette, Valérie Blais, Gazeline. Le tout en collaboration avec Québécois.
Je vais en prendre deux bouteilles.
Oh, mais madame, je travaille pas ici. Pour les billets, allez sur vuesurlarelève.com.
60 minutes de bonheur et de pas de danse,
ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission Du Coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Le Jobba, le Jobba, le Jobba,
le Jobba. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Vous écoutez la photomédia sur les ondes de choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Cette semaine à l'émission, nous avons trois chroniqueurs chroniqueuses. Nous avons Frédéric Routier, Myriam Bernin ainsi que Étienne Tardy-Paradis. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc ce soir à l'émission, il y a un sujet dont on pouvait pas se passer de ce sujet-là cette semaine, les élections françaises. On en a parlé en long et en large, mais nous on voulait ajouter notre grain de sel parce que c'est un sujet d'importance qui pourrait dans le fond, il y a le deuxième tour qui s'en vient, puis ça pourrait réorganiser l'ordre mondial, disons ça comme ça.
Oui.
Donc en premier, on va y aller avec Myriam Bernet. Myriam, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Marine Le Pen et le Front National?
Bon, je ne vous apprends rien en vous disant que Marine Le Pen est arrivée au second tour de l'élection présidentielle française avec 21,30% des voix, en seconde place derrière Emmanuel Macron qui lui a obtenu 24,01%. Alors oui, j'aime la précision et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ma chronique sur la stratégie politique de la candidate du Front National. Quel rapport, me demanderez-vous peut-être? Eh bien, c'est que Marine Le Pen est loin d'être bête et a justement un plan très précis pour cet entre-deux-tours, qu'elle n'a jamais été aussi proche des portes du pouvoir et compte bien user de toutes les stratégies possibles pour y accéder.
Mais quelle stratégie? Dis-nous ça, Myriam. Quelle
Alors,
stratégie?
Il y en a plusieurs. Dans un premier temps, il s'agit pour Marine Le Pen de récupérer le plus de voix possible afin de contrer les multiples appels à voter pour Macron lancés par les candidats perdants. À une exception, et oui, Jean-Luc Mélenchon n'a pas donné de consigne de vote à son électorat pour le second tour. Alors, c'est une véritable chasse aux électeurs et électrices de la France insoumise, nom du parti de Jean-Luc Mélenchon, qui s'organise. Rappelons tout de même qu'il s'agit de plus de 7 millions de voix à récupérer, et 7 millions de voix, ce n'est pas rien. Cette chasse, alors,
c'est la population du Québec, moi je pense que c'est faisable.
Ouais, c'est quand même beaucoup,
Pourquoi pas.
De personnes à convaincre. Et donc, cette chasse commence par les réseaux sociaux, avec un tract assez intéressant qui a été diffusé par des militants du parti d'extrême droite, et qui montre les ressemblances supposées, et j'insiste sur le mot supposé, entre Le Pen et Mélenchon. Ce tract est clairement adressé à l'électorat de la France insoumise, car il dit, et je cite, « Insoumis, ne vous trompez pas de combat, ne votez pas Macron ». Ensuite, ce sont les médias qui sont utilisés, notamment la chaîne française TF1, où durant un récent entretien, Marine Le Pen a multiplié les appels du pied aux insoumis en usant de rhétorique pour dénoncer le projet fratricide d'Emmanuel Macron, en affirmant de manière très peu subtile que Macron, et je cite encore, « veut vraiment la France soumise, pour le coup, il pourrait récupérer ce slogan détourné de Mélenchon », ou encore en s'adressant directement à l'électorat de Mélenchon, « est-ce que sérieusement vous envisagez de voter pour M. Macron, qui a annoncé qu'il allait mener une guerre sociale éclair dès son élection par ordonnance, qui va faire une loi El Khomri fois 1000 ?» Et oui, elle a vraiment dit ça sur un plateau de télévision.
Mais cette stratégie-là de Marine Le Pen, moi je pense que c'est non seulement oui pour essayer d'aller chercher dans l'électorat de Mélenchon, mais c'est d'autant plus pour les décourager à aller voter. Parce que c'est ça qu'elle veut. L'abstention, c'est ce qui pourrait davantage la servir.
Au mieux des votes en plus pour elle, au moins bien de l'abstention, mais clairement pas du vote vers Emmanuel Macron, non, c'est sûr.
C'est ça.
Elle essaie d'éviter d'avoir un retour comme ça.
Oui, mais c'est quand même assez audacieux de vouloir tenter d'aller chercher sur les plates-bandes de Mélenchon en essayant de faire des parallèles entre les deux partis. Est-ce que tu as d'autres exemples concernant sa stratégie politique?
Eh oui, et encore une fois, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Par exemple, Marine Le Pen a récemment pris congé de la présidence du Front National ce lundi 24 avril.
Boum, elle n'est plus raciste.
Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus.
Ça reste à voir.
Alors, il s'agit d'une stratégie surprise dont l'objectif est de montrer tout d'abord sa capacité à rassembler le peuple français et ensuite son engagement en se mettant au-dessus des conflits partisans pour le plus grand bien de la France.
Je pense que c'est autant hypocrite que quand on présente Macron comme étant une grande révolution dans le paysage politique français.
Je pense que tu as bien raison, Émilien, et surtout qu'il s'agit d'une continuité dans son opération de dédiabolisation du parti. Pour le petit rappel historique, elle a succédé à son père Jean-Marie Le Pen qui avait créé le FN et ça faisait 6 ans qu'elle était à la tête du parti. Ensuite, il faut aussi parler de la nouvelle affiche de campagne pour le second tour de l'élection. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais c'est vraiment une parfaite illustration de la stratégie de communication politique de la candidate. Nous pouvons la voir sur cette affiche assise, sur un bureau dans une bibliothèque, avec une petite veste bleue qui n'est pas sans rappeler son rassemblement bleu marine et une jupe noire qui laisse apparaître le haut de sa cuisse et son genou. Alors, sincèrement, je pense pas déjà avoir vu une photo plus féminine de la candidate et ça me rappelle beaucoup son clip de campagne dans lequel elle avait affirmé « Je suis une femme, je suis une mère, je suis une avocate ». Elle se pose donc ici et s'impose même en femme moderne, active et mère de famille divorcée et avec cette idée de la femme au service du patriotisme. Or, quand on analyse son programme, on peut remarquer quelque chose. Marine Le Pen fait une seule fois référence aux femmes. Dans son engagement numéro 9, vous pourrez aller vérifier en ligne. Et le choix de mots de cette affiche est justement très intéressant, avec « Choisir la France » écrit en blanc au niveau de sa veste bleue. Bon, je pense que j'aurais pu faire ma chronique uniquement sur cette affiche, mais il est temps de passer au point suivant et final.
On brûle d'impatience.
Eh bien, vous pouvez, parce qu'il s'agit maintenant du dernier sujet qui a fait les manchettes en France. Marine Le Pen, décidément ingénieuse, est allée faire une visite surprise sur le site de Whirlpool, qui fait des sécheuses, et dont la production est menacée de délocalisation en Pologne, avec à la clé la perte de plus de 600 emplois à Amiens. Alors, est-ce que vous me voyez arriver avec cette histoire ? Et oui, encore une fois, Marine Le Pen a créé l'occasion de se montrer du côté des Français, des ouvriers, contre l'oligarchie, en allant directement à la rencontre des travailleuses et travailleurs, alors que le candidat de En Marche était en réunion le matin même avec des représentants syndicaux à quelques kilomètres de là.
Make France great again.
Eh oui, c'est ce qu'on espère, mais cette visite qui devait être un des temps forts de la campagne de Macron, c'est tout simplement soldée par un échec. Il s'est fait voler la vedette et a récolté des huées au passage quand il est finalement allé voir les salariés de l'usine quelques heures plus tard.
La jeunesse emmerde le Front National.
La jeunesse emmerde le Front National.
Bon, prise de parti politique à la faute aux médias.
On sait qu'on prend des partis quand même souvent.
Pour une fois que c'est pas de leur faute aux médias. Ou presque. On va se laisser comme ça. On va écouter les numéros gagnants de Brun Citron. Moi, Brun Citron, ça me fait penser à l'été. Fait qu'on va écouter ça. Merci beaucoup, Myriam. Thank you.
santé de levier grand-mère. Je vois des étoiles quand on respire le même air. Pas toi, c'est pas mon problème. J'ai fait sourire quand elles ont mal à la tête. J'ai fait rougir la journée de la fête. Je l'ai fait dormir avec moi en cuillère. Pas toi, c'est pas mon problème. As-tu regardé, t'as mis des dents en dessous de ton oreiller? Je dis qu'ils sont belles sans aucune raison. Je les achale pas trop quand je suis en boisson. Je les regarde des yeux dans n'importe quelle position. Pas toi, c'est pas mon problème. Quand on respire le même air, pas toi, ben c'est pas mon problème.
C'était les numéros gagnants de Brun Citron. Étienne Tardy-Paradis était en feu pendant la pause et nous a fait plein de beaux jeux de mots avec citron. En tout cas, j'espère qu'il est aussi sûr de lui pour la suite, hein? Moi aussi, j'essaye.
Je vais essayer, je promets rien.
Donc, toi, Étienne, tu vas nous parler d'un petit bilan du premier tour des élections, puis tu vas aussi revenir un peu sur les deux finalistes.
Oui, alors bonjour tout le monde. La gauche est morte. Vive la gauche. Et non, je ne parle pas du Québec ici, puisqu'il n'existe plus de gauche dans la belle province, et ce depuis l'arrivée de Lucien Bouchard au pouvoir. Et si on ne considère pas les 7,6% des voix amassées par Québec solidaire sur l'île de Montréal aux dernières élections. J'ai plutôt en tête l'élection présidentielle française, dont le premier tour a eu lieu le dimanche 23 avril. Premier tour qui préoccupait profondément les marchés financiers, mais soupir de soulagement, ceux-ci n'ont plus rien à craindre, car un scénario parfait se défile devant eux. En guise de preuve, il suffit de jeter un coup d'œil sur les marchés boursiers. Seulement quelques heures après l'annonce des résultats, il était possible de voir la bourse de Paris bondir de 4,1%, la bourse de Madrid de 3%, Londres 1,6% et la valeur de l'euro augmenter de 2%.
Donc le fait que ces bourses-là aillent bien, c'est un indicateur qu'il y a vraiment un renouveau dans la politique, que le candidat qui vient de passer en premier ou second tour vient secouer les bases du marché et du système politique capitaliste.
Pas nécessairement, mais on va dire que ces derniers n'ont plus à craindre une secousse en provenance de l'économie française. Je m'explique. Mais tout d'abord, revenons sur le résultat du premier tour. Premièrement, je tiens à féliciter Jacques Cheminade, Nathalie Arthaud, François Asselineau, Philippe Poutou, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan, tous candidats à l'élection, d'avoir amassé 8,74% des voix, ce qui est un record dans l'histoire de la 5e République française, non pas parce qu'ils ont réussi à réunir autant de votes, alors que les médias ont mentionné leur nom qu'à de rares occasions, excluant les deux débats, mais plutôt parce qu'à eux seuls, ils ont réussi à dépasser le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon. Résultat catastrophique pour ce dernier avec un maigre 6,36%, alors qu'aux dernières élections présidentielles, le Parti socialiste avait obtenu 28,63% au premier tour. Toujours du côté de la gauche française, ou du moins ce qu'il en reste, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a amassé 19,58% des voix. voix, mais il n'a pu passer au second tour, et ce, malgré une remontée impressionnante en fin de campagne, et surtout alors qu'il avait reçu le renfort de 5 nouveaux hologrammes. Autre élément marquant du premier tour, François Fillon, avec un total de 20,01% des voix. Grande surprise pour moi, car je ne croyais pas possible de pouvoir faire campagne avec autant de casseroles au derrière et obtenir un tel résultat, comme quoi quand on se bouche le nez pour voter, tout est possible. Finalement, nous avons les deux candidats qui passeront au second tour, soit Marine Le Pen avec 21,3% et Emmanuel Macron avec 24,01%.
Attention à ce que tu dis sur Fillon, là, parce qu'il va te coller un procès, Étienne. Mais toi, t'as toujours pas expliqué pourquoi les marchés financiers étaient heureux du dénouement du premier tour de l'élection présidentielle. On en a parlé un petit peu, mais c'est pas tant clair.
J'y arrive. Mais avant, j'aimerais faire un survol de l'historique des deux finalistes. Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, fondateur du parti d'extrême droite, le Front National, est issue d'une famille extrêmement riche. Cette dernière obtient une maîtrise en droit et devient quelques années après avocate au barreau de Paris. Celle-ci est amenée à défendre des étrangers en situation irrégulière. Préférant les étrangers en situation irrégulière à l'extérieur de la France, Marine Le Pen décide de mettre fin à sa carrière d'avocate seulement après 5 ans, pour mettre à profit ses connaissances juridiques au service du Front National de son père. C'est en 98 que celle-ci obtient son premier mandat politique. Dès lors, elle se décrit comme une modérée du Front National, si modérée il y a au sein du Front National. C'est à son élection à la tête du parti en 2011 que Marine Le Pen travaille activement à donner une image plus acceptable du Front National aux électeurs français. Cette stratégie de dédiabolisation aura pour cause de créer d'importantes frictions avec son père, car cette dernière condamne ses propos polémiques, antisémites, racistes et négationnistes. Toutefois, à l'aube dorée de l'élection présidentielle de 2012 et de 2017, le froid semble s'être dissipé avec une troisième place il y a 5 ans et tout récemment le ticket d'or pour le deuxième tour. Après tout, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre.
Et c'est le cas
maintenant,
de dire.
Au tour de Macron, candidat des banques en marche vers l'Élysée. Ce jeune prodige de 39 ans connaît une carrière politique fulgurante. Après avoir été banquier chez la célèbre banque Rothschild de 2004 à 2008, le Brutus du Parti socialiste est membre de celui-ci de 2006 à 2009. Il est nommé secrétaire général adjoint au cabinet du président Hollande en 2012 et il devient ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en 2014. Insatisfait de la direction de son parti et sentant le vent tourner, ce dernier crée le mouvement politique En Marche en 2016 et finit en tête de liste du premier tour de l'élection présidentielle l'année suivante.
Étienne, c'est vraiment intéressant tout ça, mais t'as pas encore glissé un seul mot sur le pourquoi de l'enthousiasme des marchés financiers, alors que Marine Le Pen est présente au deuxième tour et elle veut revenir au franc, quitter l'Union européenne. Bref, des mesures qui déplaisent très certainement à ces marchés financiers-là.
J'allais justement en parler, mais je devais exposer quelques éléments avant. Le scénario est parfait pour les milieux financiers pour plusieurs raisons abordées précédemment. D'abord, il y a l'élimination de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, l'un des seuls candidats de poids qui envisageait des réformes économiques importantes, notamment dans le monde des banques, réformes qui dérangeaient les milieux d'affaires et qui était possible dans l'hypothèse d'un deuxième tour Mélenchon-Le Pen ou même Macron-Mélenchon. Deuxièmement, ces derniers ne considèrent pas Marine Le Pen comme une menace réelle puisque ses chances sont minces de l'emporter au second tour. D'ailleurs, il suffit de voir les nombreux appuis que Macron obtient de tous les côtés du spectre politique. Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Benoît Hamon, François Fillon, François Hollande et j'en passe. De plus, si vous prenez une carte des votes exprimés au premier tour, la majorité des personnes qui ont voté Marine Le Pen se trouvent dans des zones rurales. Et ce, en faveur de Macron dans les zones urbaines. Or, comme le vote est au suffrage universel, les zones urbaines sont plus payantes politiquement. Autre élément, l'attention médiatique est fortement concentrée vers Emmanuel Macron, et ce depuis le début de la campagne. Macron est le candidat du statu quo, pro-Union européenne, et ne veut pas sortir du nucléaire, équilibre budgétaire, entre rigueur et investissement, et il est pour une rénovation de la vie politique qui, somme toute, n'a rien de révolutionnaire. Pour toutes ces raisons, et certainement d'autres qui nous échappent, les places financières sont très heureuses. Et je préside une victoire de Macron en 7. Merci beaucoup.
Bon, en 7, hein?
Ouais, moi, je ferai attention aux prévisions quand même, parce que justement, il faut voir qui soutient Macron, puis comment, contre qui se lève le parti du Front National. C'est justement contre toutes ces personnes qui le soutiennent aussi. Et c'est ce que beaucoup de Français apprécient chez le Front National.
Mais est-ce que c'est suffisant pour remporter le deuxième tour? Par exemple, récemment, l'Union européenne, si je ne me trompe pas, hier ou aujourd'hui, ont enlevé l'immunité parlementaire de Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen doit se battre sur deux fronts, à la fois à l'Union européenne, à la fois sur le terrain national. Oui, ça peut jouer à son avantage, si elle le joue bien, mais de là à se battre contre toutes ces personnalités politiques qui ont tous du temps d'antenne, ça fait gros, il me semble.
Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est, les chiffres gonflent et gonflent pour le Front National à chaque année, puis dans d'autres élections aussi. C'est pour ça que maintenant, je suis un peu plus méfiante les prédictions.
c'est ce qui s'est passé aussi avec Trump. On ne pensait pas Exactement. Qu'il allait gagner. Puis finalement, même avec moins de voix, il a réussi à obtenir la Maison-Blanche. Bon, le système électoral est un peu différent en France. C'est un peu plus facile de contrecarrer parce qu'il faut une majorité simple. Mm-mm. C'est vraiment l'abstentionnisme, moi, je pense, qui va faire la différence. Donc,
effectivement.
Dépendamment du pourcentage d'abstention ou de vote blanc même, on va peut-être avoir des surprises.
Je pense qu'il va y avoir beaucoup de votes blancs et d'abstentionnistes.
Oui.
Ouais.
Merci beaucoup, Étienne.
Ça fait plaisir.
En troisième et dernière partie d'émission, avec Frédéric Routier. Toi, Frédéric, tu as abordé les élections françaises avec un angle un petit peu différent.
Ouais, moi, je vais plutôt ouvrir, en fait, sur une piste de réflexion. Juste une petite remise en contexte avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, on avait parlé à l'émission de journalisme citoyen. Le journalisme citoyen, c'est quand monsieur, madame, tout le monde s'approprie l'espace médiatique qui est habituellement réservé aux journalistes dits professionnels. C'est un mouvement qui est de plus en plus présent et il revendique, entre autres, une volonté de mater le monopole des grandes instances médiatiques. Pour plusieurs raisons, écœurant de cet aigu, manque de confiance ou même perte de crédibilité des citoyens envers les instances médiatiques générales. Parallèlement aussi, il y a un autre phénomène qu'on voit. On vit dans un monde de plus en plus forgé par et pour le web 2.0. Donc, tout s'informatise, se virtualise, s'automatise. Le réseau social et les médias sociaux prennent désormais une place prédominante dans l'espace médiatique moderne.
Oui, ça, tout ça, c'est des phénomènes dont on a parlé et qu'on connaît, mais Frédéric, c'est quoi le rapport?
C'est quoi le rapport avec les
élections françaises?
J'y viens. Le lien, c'est que si on combine ces deux phénomènes actuels-là, on en arrive à ce qu'on a pu voir émerger dans la campagne de Mélenchon, c'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle forme d'activisme politique. Je m'explique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Discord Insoumis. C'est un serveur qui accueille entre autres un forum où des internautes pro-Mélenchon chattent ensemble. Au départ, c'est une initiative personnelle que certains individus qui partageaient les mêmes idéaux et voulaient échanger sur le sujet.
Comme un MSN des pro-Mélenchon.
Exactement.
Whiz. Toudoudou, toudoudou.
Mais c'est ça. Donc, ça a pris de l'ampleur peu à peu. Et quand l'équipe de Jean-Luc Mélenchon s'en est rendu compte, elle s'en est servie comme outil de campagne. Aujourd'hui, Discord Insoumis compte environ 20 000 internautes actifs et est indissociable de la campagne menée par la France Insoumise. C'est un phénomène qui tarde pas à se dupliquer sur le forum jeuxvideo.com, mais cette fois-ci en faveur de plusieurs candidats, pas seulement Mélenchon. Ouais, je sais, vous me direz le rapport, encore une fois, jeuxvideo.com, je veux dire, ça n'a pas de rapport avec la politique, mais justement...
Pas vraiment, mais non, peut-être, je sais pas.
Et c'est justement ça, moi, ce que ça me fait réaliser, c'est que ça montre bien qu'il y a un changement dans la forme du militantisme politique et de la partisanerie, et qu'on arrive, avec le virtuel, à atteindre des nouveaux milieux sociaux, comme des jeunes sur jeuxvideo.com. Comme indiqué dans un article du Monde, article qu'on va mettre sur la page de la Photomédia, parce que c'est vraiment intéressant, leur profil, des étudiants, rarement des militants de terrain, s'engagent parfois pour la première fois. Donc on voit qu'on va chercher une nouvelle population là, qui vient faire de l'activisme politique.
Donc sur les blogs de jeuxvideo.com, d'un côté il y a anarchisme dans Grand Theft Auto, puis ensuite il y a
exactement
jeune pour Mélenchon. Mais maintenant que le premier tour est passé et que Mélenchon est plus dans la course, est-ce que ça continue? Comment ça évolue tout ça?
C'est ça. Donc, suite à la défaite de Mélenchon, les internautes de Discord Insoumis, ils vont vraiment se scinder au sujet de quelles actions prendre pour la suite des choses. Donc, voter Macron, voter Le Pen, voter Blanc, s'abstenir, il y a des arguments pour tous les camps. Puis, il y a vraiment une division là, qui a lieu sur ce forum-là qu'il n'y avait pas avant. Mais là, on voit vraiment une volonté de la part des administrateurs de Discord Insoumis de rassembler la communauté du forum en appelant à un compromis qui est le suivant, et je cite, « L'ensemble des soutiens à la campagne de Jean-Luc Mélenchon devront bientôt s'exprimer concernant concernant le scrutin du 7 mai prochain. Pour tout cela, nous devons rester soudés et nous vous demandons de ne pas donner de consignes de vote pour le second tour. Ne nous divisons pas à cause d'un choix impossible et commençons dès maintenant à trouver le moyen de construire un avenir en commun. Notons que le mot « avenir » est écrit avec un « A » majuscule.
C'est pour ça que je parlais d'anarchisme tout à l'heure.
Donc pour moi, ça traduit vraiment le début d'une certaine transformation dans la façon dont les citoyens vivent l'engagement politique, ou du moins un effort pour enclencher un mouvement et engendrer une action concrète, possiblement ultérieurement, sur le terrain. Donc, c'est vraiment une organisation politique qui se fait sur un forum, chose qui est plutôt nouveau.
Oui, puis on n'a jamais vu ça, du moins de notre côté de l'Atlantique, puis même en France, c'est tout nouveau.
Ben, Bernie Sanders, je ne me trompe pas, avec quand même une plateforme qui ressemblait légèrement à ce que Mélenchon fait. Pas exactement la même chose, il ne va pas rechercher les mêmes... Ben oui, en fait, les mêmes clients, parce qu'on va chercher des jeunes essentiellement. Mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant chez Bernie Sanders qu'on peut peut-être aussi retrouver du côté de Mélenchon. Mmh.
Ouais. Je pense qu'il y a eu des inspirations du candidat états-unien.
Ah, c'est clair. Puis on pourrait même aller jusqu'à dire Macron s'est peut-être inspiré de Trudeau, en tout cas.
On en reparlera.
Donc, c'est ça. Donc là où je vais en venir, puis ce que je trouve le plus intéressant et ce que j'aimerais amener à votre attention ce soir, c'est vraiment comment Mélenchon et son équipe se sont immédiatement approprié le phénomène virtuel de Discord Insoumis pour l'inclure dans leur campagne et en faire vraiment un outil de premier plan. C'est vraiment devenu indissociable de la campagne. Oui, c'est encore embryonnaire, 20 000 membres actifs, mais c'est quand même la première fois que je remarque qu'un candidat à la présidentielle ou au poste de premier ministre, si l'équivalent, peu importe, donne une telle ampleur à tout un pan virtuel dans sa campagne. Oui, donc on a vu beaucoup d'hommes et de femmes politiques très actives et actives sur les réseaux sociaux, comme on vient d'en parler, Twitter et compagnie. Mais là, on parle carrément de la mise en branle d'une armée en ligne, selon les termes bien choisis, selon moi, de Corentin Lamy dans son article du Monde.
Ça me fait penser à l'armée de Dumbledore.
C'est exactement AD. Donc c'est vraiment une armée en ligne. Donc c'est autre chose. Là. C'est plus du marketing politique, c'est plus de la communication politique, c'est vraiment une armée d'internautes qui se mobilisent sur le web. Donc, là où j'en viens, c'est comme plusieurs domaines de notre quotidien. Est-ce que l'activiste politique subit une mutation dans sa forme d'expression? Est-ce que cet activiste politique-là se virtualise peu à peu et inévitablement, comme on peut voir dans plein de choses?
Et si c'est le cas, ça serait la faute à qui? On se le demande. C'est la grande question. C'est la grande question de l'émission.
C'est toujours la faute aux médias.
Moi, c'est la faute aux médias, du moins en partie. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est quelque chose d'autre qui traduit d'une perte de confiance et d'une diminution de la crédibilité des individus face aux médias de masse. Tu sais, les sondages, les probabilités, les intentions de vote, les prédictions, la propagande, le sensationnalisme, toutes ces choses auxquelles on ne croit plus et qui nous énervent de plus en plus et qu'on dénonce de plus en plus. Donc, mon parallèle avec le journalisme citoyen, Monsieur, Madame, tout le monde veut maintenant se réapproprier l'espace politique comme il le fait avec l'espace journalistique et médiatique. Pour se sentir peut-être plus en contrôle ou avoir moins l'impression qu'on essaie de lui en passer une petite bite, comme on dit en québécois. Je sais pas trop, mais plusieurs pistes de réflexion intéressantes, je pense. En tout cas, j'ai hâte de voir si ça va prendre de plus en plus d'ampleur ou si c'est juste l'histoire d'une fois que ça va échouer puis que ça va tomber dans l'oubli. Mais regardez ça pour la suite de l'élection française, ça pourrait être intéressant.
C'est une bonne question. On va continuer de suivre le dossier. Merci beaucoup, Frédéric.
Bonne soirée.
Donc, c'était La Faute aux médias sur choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Rosca. Nous avions en première partie d'émission Myriam Bernin ainsi qu'Étienne Tardy-Baradi. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se laisse en chanson avec une autre chanson de Brun Citron. Parce que moi, j'aime beaucoup le brun et j'aime beaucoup les citrons, ça tombe bien.
Ça, c'est sûr.
Et la chanson s'appelle « Le mépris ». Attention.
Que tu me postillons dans le cou, que tu me le dises bien fort pendant que je joue, ça donne rien. Que tu m'en parles entre deux tournes, pendant une pause, pendant un trou, tu me le répètes tout le long, ça donne rien. Je suis curieux que ça te procure de m'en faire part, ça fait-tu partie de ta cure? C'est-tu quelque chose qui te fait sentir comme un homme, comme un vrai, comme un chien savant? Le mépris comme moyen de défense. Le mépris pas une forme d'intelligence. Le mépris dans la file d'attente. Le mépris